9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, tiens, ce matin, je reçois la record woman, toute catégorie des vues sur YouTube. C'est le docteur Martine Cotina. Bonjour, doc.
Bonjour, Philippe. Bonjour à tous.
Vous êtes médecin gastro-entérologue et diplômé de nutrition et de micronutrition. Ça, c'est dans la deuxième partie de votre carrière, un diplôme que vous êtes allé chercher à Dijon. Combien d'années après votre diplôme de médecine ?
Après ma spécialité de gastro-entérologie.
Ouais.
Oh, une bonne dizaine d'années après.
Ouais. Et c'est le reflux gastro-œsophagien qui vous a amené à la micronutrition.
Ah oui, oui. C'est une pathologie extrêmement intéressante parce que beaucoup de patients, beaucoup de Français en souffrent. Et l'alimentation corrige fabuleusement ces pathologies-là. Mmh. Et rapidement.
Et c'est le terrain qui vous a fait prendre conscience, finalement, qu'il vous manquait quelque chose, qu'il vous manquait un outil thérapeutique.
Exactement. Les patients revenaient me voir et puis ils me disaient, c'est sympa votre traitement, votre médicament, mais dès que je l'arrête, ça revient. Donc ça veut dire que je ne suis pas guérie. Et là, c'est vrai qu'en tant que médecin conventionnel, je n'avais pas tellement de réponses.
C'est pour ça que vous êtes retourné, former.
Il fallait que je comprenne encore plus.
Sur les bancs de la fac. Est-ce que vous avez un mot pour qualifier la spécialité que vous pratiquez ? Est-ce que vous diriez que c'est de la gastro-entérologie conventionnelle ?
Non.
Non ?
Moi, je vais dire gastro-entérologie nutritionnelle.
Ouais. Vous voyez ? Pas mal, ça ?
Oui, c'est pas mal.
Alors, nous allons aborder plusieurs sujets ce matin. On va parler du reflux gastro-œsophagien. Il y a beaucoup de questions d'auditeurs sur le sujet. Vous avez d'ailleurs écrit des livres sur le sujet chez un éditeur engagé qui s'appelle Thierry Soucard.
Vous avez le
reflux naturellement chez Thierry Soucard. Oui. On le montrera tout à l'heure à la caméra. Et puis vous avez un livre de recettes de cuisine qui s'appelle Petit plat savoureux contre le reflux.
Alors le deuxième livre, Petit plat savoureux contre le reflux, comporte un petit rappel de la physiopathologie, enfin des causes du reflux gastro-œsophagien, des solutions pour changer son alimentation et hygiène de vie. Et puis, des questions, justement, de patients, 50 questions de patients. Et puis, effectivement, des recettes, comme vous le disiez.
J'ai appris un mot en préparant cette émission, c'est le mot pyrosis. Qu'est-ce que c'est que le pyrosis ?
Alors, le pyrosis, c'est cette brûlure qui part du creux de l'estomac et qui remonte le long de l'œsophage et qui brûle tout le long, là. C'est ça, le pyrosis. Mmh. Ça peut arriver jusque dans la bouche. Ça peut s'arrêter un petit peu avant.
Ça va jusqu'à la bouche.
Hein. Oui, c'est pratique.
Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, cette brûlure peut faire penser à des tas de choses, sauf à un reflux gastro-œsophagien.
Alors, quand elle est typique comme ça, non, franchement, ça signe le diagnostic. Quand elle est typique, qu'elle survient après le repas, ou quand les gens se penchent en avant, ou quand ils vont se coucher, là, c'est vraiment typique. Là, vraiment, ça fait penser au reflux. Après, le reflux peut, lui, par contre, prendre des masques différents et mimer une angine de poitrine, mimer des crises d'asthme, mimer d'autres pathologies. Oui, c'est plutôt l'inverse.
Mmh. On va s'intéresser au reflux résistant ce matin. Vous, votre approche, c'est de dire que peut-être le meilleur médicament, c'est la nutrition.
L'alimentation et l'hygiène de vie autour. Parce que ça ne suffit pas que l'alimentation, l'hygiène de vie, ça veut dire que ça va englober aussi la façon de se comporter, c'est-à-dire de mieux gérer son stress, la façon de bien dormir, beaucoup d'autres choses autour, mais de son hygiène de vie.
Mmh. Et il y a le reflux résistant.
Oui. Hein,
qui amène beaucoup de consultations
et pour
lequel vous avez énormément de questions. Donc, à quel moment est-ce qu'on considère qu'un reflux est résistant ?
Alors, le reflux va être résistant de deux manières. Soit il va être résistant parce que les gens prennent des médicaments et que ça ne fonctionne pas. Donc, ça peut être une méthode de reflux résistant. Et il peut être résistant parce qu'il récidive tout le temps, c'est-à-dire qu'on le traite. Ça s'améliore et puis il revient. Enfin, voilà. C'est aussi une deuxième forme un petit peu plus allégée de résistance. Voilà. Mmh. Mais la forme qui résiste aux médicaments, c'est classique. Nous avons pas mal de reflueurs qui ne sont pas soulagés par les médicaments anti-reflux.
Donc, et les médicaments anti-reflux s'appellent les
IPP, c'est-à-dire les inhibiteurs de la pompe à protons. Alors bien sûr, vous avez aussi les alginates, vous savez, toutes les pansements qu'on donnait dans le temps, mais qui ont été largement supplantés par les bloqueurs de l'acidité que sont les inhibiteurs de la pompe à protons.
Alors, la pompe à protons, pour tout le monde, qu'est-ce que c'est ?
C'est-à-dire que quand vous allez inhiber cette pompe à protons, vous allez inhiber complètement la sécrétion acide de l'estomac. Voilà. Donc, c'est une véritable bazooka qui supprime la sécrétion acide de l'estomac.
C'est-à-dire que quand on a des reflux, c'est qu'on a trop trop d'acidité ou pas assez ?
Trop, pas forcément. Ça veut dire que ça remonte. Et ces reflux peuvent être acides, mais ils peuvent être aussi alcalins, avec de la bile qui remonte. Donc ils peuvent avoir un pH acide, ils peuvent avoir un pH neutre, c'est-à-dire un mélange d'acide et de bile. Ils peuvent être alcalins, c'est-à-dire être dus à des remontées de bile.
D'accord. Mais c'est pas parce qu'il y en a trop, voilà. C'est parce qu'ils remontent.
C'est parce qu'ils remontent.
Pourtant, dans l'organisme, et l'organisme est bien fait, il y a une barrière qui est censée empêcher que ça remonte.
Exactement. Cette barrière qu'on appelle la barrière anti-reflux, effectivement, qui est composée de facteurs anatomiques, de facteurs physiologiques, avec un sphincter, qui sont faits là pour effectivement empêcher ces remontées. Mmh. Empêcher la majeure partie des remontées, parce que vous en avez toujours un petit peu qui remonte. C'est normal, c'est physiologique. C'est l'excès qui est pathologique, encore une fois.
Tout le monde a des reflux.
Un petit peu, mais on ne le perçoit pas, il ne nous gêne pas, il ne se complique pas, il ne donne pas de lésions. Voilà, ça c'est le reflux physiologique.
Et dans ces cas-là, ça veut dire que la barrière ne fonctionne pas, c'est ça ?
Ah oui, ça veut dire que la barrière ne fonctionne pas bien. Alors ça peut être la barrière, mais ça peut être aussi la muqueuse de l'œsophage. C'est-à-dire la muqueuse de l'œsophage qui normalement doit être capable de résister à l'acide peut aussi ne plus être capable de résister à cet acide et donc devenir plus sensible à cette remontée d'acide qui peut être en quantité normale. Mais alors là, c'est plus un problème de sensibilité de la muqueuse œsophagienne. Et ça aussi, c'est un moyen d'avoir un reflux, effectivement.
On parlera tout à l'heure plus précisément, si vous êtes d'accord, de la muqueuse. Donc, finalement, comment est-ce que vous prenez en charge quelqu'un qui vient vous voir les IPP n'ont pas fonctionné sur lui. Qu'est-ce que vous faites pour lui ? Il a un reflux qui résiste.
Alors, il a un reflux qui résiste. Et bien, déjà, on va reprendre un petit peu tout ce qu'on appelle, nous, l'interrogatoire. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre dans quelle situation survient son reflux. Qu'est-ce qu'il a changé au niveau alimentaire ? Est-ce qu'il a bien mis suffisamment d'aliments protecteurs ? Est-ce qu'il n'aurait pas des intolérances alimentaires ? Voilà, donc on va reprendre l'enquête déjà alimentaire. On va vérifier. Deuxièmement, on va vérifier, par exemple, qu'il n'ait pas de médicaments. De médicaments qui peuvent favoriser le reflux. Ça existe. Donc,
Par
exemple, les atropiniques. Tous les médicaments à base d'atropine, ils vont favoriser la remontée.
D'accord. Qui soigne quoi, les atropiniques ?
C'est quoi, c'est l'œil.
Oui, parce que l'atropine, c'est souvent l'œil. Oui, vous avez raison.
Mais bon, il y a d'autres. Des antispasmodiques.
Ouais. Hein,
voilà, les antispasmodiques. Donc, à ce moment-là, effectivement, donc on va vérifier quand même qu'il n'y ait pas ce genre de choses qui puissent occasionner les reflux. On va vérifier aussi que le patient n'est pas trop stressé. Et ça, c'est une des grandes causes de reflux résistant.
C'est une question qui revient.
L'état de stress chronique. C'est terrible. C'est une des grandes causes. Même quand les gens changent pas mal leur alimentation et que ça continue, il faut franchement évoquer une pathologie émotionnelle. Et ça ne veut pas dire que c'est dans la tête, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, ça ne veut pas dire que c'est dans la tête, ça veut dire que tout le tube digestif, il est innervé par des tas de petits nerfs et qu'en fait, on a un cerveau partout. Et donc, c'est le cerveau du tube digestif qui est malade et qu'il faut falloir soigner, mais de manière naturelle, bien sûr, on peut.
Oui, enfin, vous savez qu'on a longtemps dit que l'ulcère à l'estomac était dû au stress. Hein.
Oui, je sais. Maintenant, on sait que l'hélicobactère.
C'est une bactérie. Donc.
Mais de toute façon, très souvent, une pathologie, elle est d'origine multiple. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'additionnent.
Donc, vous vérifiez, vous faites le questionnaire.
L'enquête nutritionnelle.
Voilà, d'accord.
On vérifie les antécédents, on vérifie les problèmes de stress. Et puis, surtout, on regarde si vous voulez, on regarde un petit peu dans quel contexte ce reflux est survenu. Par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui se met à avoir des reflux après le décès d'un proche. Vous voyez, c'est important, ça. Dans quel contexte c'est survenu ? Et avant, il n'y en avait pas. Donc, il faut quand même se poser des questions. Vous voyez, il faut s'interroger, il faut aller plus loin. Donc, le contexte, comment c'est survenu ? Après, il faut s'intéresser à l'intestin. L'intestin, c'est une des grandes causes de reflux résistant, par le biais notamment de la constipation. Et ça, les gens n'y pensent pas. La constipation. La constipation qui favorise un ralentissement de la vidange de l'estomac et donc augmentation du reflux parce que vous avez une hyperpression qui se passe dans l'estomac. Et donc, du coup, il y a un reflux. Et ça, les gens ne se plaignent pas de constipation. Ils viennent, ils ne sont pas bien, ils ne digèrent pas bien, ils ont des reflux. Vous corrigez la constipation, il n'y a plus rien. Donc c'est intéressant, vous voyez ce que je veux dire. Il faut aller plus loin parce que la constipation, elle peut être là et ne pas les gêner. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien aller à la selle tous les 5 à 8 jours. Et ça ne les dérange pas. Il y a des gens que ça ne dérange pas. Il y a des gens que ça dérange, mais il y a des gens que ça ne dérange pas. Et donc, il faut corriger aussi ça. Dans l'hygiène alimentaire, il faut aussi penser à la mastication. C'est une des grandes causes aussi de reflux. Les gens qui avalent, qui mangent trop vite.
Il faut expliquer que l'acide, donc l'acide qu'on a dans notre intestin, il sert à quoi ?
Ah, l'acide, il sert à beaucoup de choses. Hein. Il sert
dans notre estomac, pardon.
Dans l'estomac, par exemple, il va servir à aider le pepsinogène, qui est une préenzyme, si vous voulez, qui va devenir une enzyme efficace pour commencer à digérer les protéines, par exemple. Donc, s'il n'y a pas d'acide, la pepsine, elle ne va pas être active. L'acide, ça va servir aussi, essentiellement, à stériliser, entre guillemets, le milieu gastrique, parce qu'en fait, vous avez beaucoup de bactéries qui rentrent, qui sont là partout dans notre environnement, qui vont pénétrer dans la bouche, dans l'œsophage, et puis évidemment, dans l'estomac, il va y avoir cette barrière acide qui va justement remettre un peu les pendules à zéro, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y en aura toujours un petit peu qui vont résister, mais pas tant que ça. Et puis après, du coup, vous allez, si jamais vous bloquez cette acidité, vous allez avoir un nombre de bactéries important dans cet estomac et avec une perturbation complète sur tout l'axe digestif, c'est-à-dire au niveau de l'intestin grêle et aussi au niveau du côlon, avec, par exemple, en bloquant l'acidité.
Bien, donc on a bien compris que si quelqu'un vient avec une constipation, donc vous, vous travaillez sur la constipation, quoi d'autre ? Comment vous prenez en charge ces reflux résistants ?
Voilà, ben je pense que c'est déjà pas mal et après je me fais aider. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a corrigé bien bien l'alimentation, je demande aux patients, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a corrigé, il faut remettre en place l'activité physique, il faut que les gens rebougent, il faut qu'ils fassent éventuellement du yoga, de la méditation, etc. Et après, éventuellement, se faire aider par des thérapeutes qui peuvent aider au niveau de la prise en charge psychologique, quoi, qui peuvent les aider, leur montrer le bon chemin pour essayer de corriger leur stress. Parce que très souvent, quand on ne trouve pas d'autres causes, c'est là-dessus qu'il faut creuser.
Et donc, à ce moment-là, là, vous travaillez
On se fait aider avec quelqu'un, voilà. Ouais. Avec quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine. Ça peut être l'hypnose, hein, ça marche très bien, l'hypnose, dans les troubles digestifs, hein, très, très bien.
Vous arrivez à, finalement, à prendre en charge tous les reflux résistants ?
Alors, on ne peut jamais dire en médecine qu'on a 100% de résultats. Je pense que celui qui dit 100% de résultats, ce n'est pas quelqu'un d'honnête. Mais on est à des très bons pourcentages, voilà.
Allez, on profite qu'elle soit là avec nous ce matin. Martine Cotina est là. Alors, beaucoup de questions pour savoir où on trouve votre livre.
Ah, bah partout. C'est-à-dire que vous allez d'abord chez mon éditeur, Thierry Soucard Édition, après à la FNAC, Amazon, enfin partout.
Parce que beaucoup disent, oui, il est en rupture de stock. Enfin,
ouais. Ah non, parce qu'il faut, il faut bien différencier. Stop aux brûlures d'estomac était le premier livre initial que j'ai écrit et qui a été remodelé, retransformé, amélioré et qui est devenu soignez votre reflux naturellement.
D'accord. Parce qu'on appelait ça les brûlures d'estomac avant, en fait.
Voilà.
C'est ça, c'est ce qui fait.
Oui. Parce qu'avant, ça s'appelait stop aux brûlures d'estomac. Voilà, exactement. Et la plus grande cause des brûlures d'estomac, c'est le reflux, bien sûr.
Et on en parle jusqu'à 10h à votre santé sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors, c'est pas un sujet glamour, mais ça nous concerne tous. On va parler des reflux ce matin avec Martine Cotina, qui est avec nous, médecin gastro-entérologue et diplômée de nutrition et de micronutrition, auteur de nombreux livres et de soigner le reflux naturellement qu'on trouve chez Thierry Soucard, que vous montrez à la caméra. Et puis, vous avez la version avec des recettes, mais aussi 50 questions de malades, petits plats savoureux contre le reflux.
Voilà.
Le médicament allopathique qu'on prescrit, c'est le nom générique, j'imagine, hein, contre le reflux, s'appelle
les IPP.
Les IPP.
Les inhibiteurs de la pompe à protons, c'est une classe pharmaceutique.
Voilà, classe pharmaceutique. Classe, hein. Bon, les plus connus, quels sont leurs noms ?
Le premier qui est arrivé sur le marché, Mopral, par exemple, le premier.
D'accord. Quelle est la question autour de ces IPP ? Ils sont utiles dans certains cas.
Ah oui, moi je pense qu'ils peuvent, ils ont leur place parce qu'ils peuvent soulager immédiatement un patient. Un patient va voir son médecin traitant. Le médecin traitant n'est pas forcément au courant que l'alimentation peut donner de très bons résultats. Et puis, il veut soulager son patient dans l'immédiat. Ça va marcher dans un bon nombre de cas et rapidement.
Sur quelle durée, donc ? Est-ce qu'il y a une durée idéale de prescription d'IPP ?
Alors, ce qui serait intéressant, effectivement, c'est de ne pas dépasser un traitement de 4 semaines, par exemple. Ça serait très bien, voilà, de ne pas dépasser ça, pour que, justement, essayer de comprendre la vraie cause. Parce que quand vous traitez par un IPP, en fait, vous soulagez le symptôme. C'est tout ce que vous faites. Alors, vous ne corrigez pas la cause.
Oui, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on prend un IPP ?
Voilà, vous corrigez pas la cause. Vous déséquilibrez l'acidité au niveau de l'estomac. Il n'y en a plus. Vous déséquilibrez tout le microbiote œsophagien, d'estomac, le microbiote de l'intestin grêle, le microbiote du côlon, enfin vous déséquilibrez un petit peu tout ça et vous pouvez favoriser certaines pathologies, par exemple certaines carences en oligo-éléments, certaines, par exemple le fer, etc. Donc du coup, vous pouvez perturber un petit peu le fonctionnement de l'organisme. Donc c'est vrai que c'est bien comme un soulagement immédiat, ça peut être pratique éventuellement quand on part quelques jours en vacances et puis qu'on peut peut-être pas faire aussi attention qu'on le souhaiterait dans la modification nutritionnelle, mais c'est bien que ça serve occasionnellement ou en dépannage ou en traitement d'urgence, ça serait intéressant.
La question qui se pose aujourd'hui, c'est que ces fameux IPP...
Ils sont utilisés de manière chronique.
Oui. Voilà, sur du long terme.
Voilà. Et quelquefois, pas forcément à bon escient, parce que quelqu'un qui a un petit reflux simple, sans lésion au niveau de l'œsophage... c'est bien de le soulager, mais à un moment donné, il faut essayer de comprendre avec lui pourquoi il a ce reflux et essayer de corriger les vraies causes quand c'est possible. Parce que ça peut fonctionner très bien. Moi, j'ai un patient que j'avais rencontré qui avait, ça faisait plus de 10 ans qu'il prenait des IPP. Et en fait, il faisait des grosses erreurs nutritionnelles, mais que n'importe qui aurait pu comprendre. Il buvait 2 litres de café par jour, 2 litres de jus d'orange par jour, du commerce. Donc évidemment, il n'était pas bien. Dès qu'on arrête ça, ça s'améliore. Donc, il y a des choses simples, des fois, à corriger. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a des fois des choses simples à corriger.
Ce qu'on oublie de dire, c'est que chaque classe de médicaments a des effets indésirables et secondaires.
Et on le sait. Voilà, c'est normal. Les médicaments, ils ont des effets positifs et des effets négatifs. Après, c'est toujours une gestion bénéfice-risque qu'on nous apprend à gérer en tant que médecin.
Mais concernant les IPP, quels sont les effets secondaires qui sont les plus fréquents ?
Alors c'est vrai qu'on s'en rend pas trop compte, c'est pour ça que c'est un peu pervers, c'est-à-dire que effectivement le fait que ça déséquilibre le microbiote, on s'en rend pas forcément bien compte parce que si les gens ont des problèmes après d'intestin ou intestin irritable, on met pas ça forcément sur le compte des IPP, donc on se rend pas trop bien compte. Donc c'est pour ça que ça passe un petit peu incognito et que les gens comprennent pas bien pourquoi il faut les arrêter finalement.
Le rôle d'un IPP, c'est quoi ? C'est de bloquer l'acidité, c'est
voilà.
Ça ?
Oui, ça l'empêche d'être sécrété au niveau de l'estomac. Voilà. Donc du coup, il y a une nette chute de la sécrétion gastrique au niveau de l'estomac.
Et qu'est-ce qui se passe finalement quand on arrête les médicaments ?
Alors, il faut faire attention de ne pas les arrêter trop vite.
Parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet rebond.
Oui, voilà. Il faut y faire attention. Et puis, il ne faut pas les arrêter de son propre chef. C'est logique de prendre l'avis de son médecin pour être sûr que la pathologie le permette. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut savoir dans quelles conditions on va les arrêter. Donc c'est bien de prendre l'avis de son médecin traitant, mais c'est bien de commencer déjà à changer son alimentation, son hygiène de vie, parce que si on n'a plus mal et que si l'indication n'est pas formelle à les continuer au long cours, l'avantage c'est qu'on peut... les gens les oublient même de les prendre parce qu'ils ont plus mal. Donc en fait, ça se fait tout seul, en fait, l'arrêt.
Beaucoup de gens en prennent
oui,
en France.
Oui,
hein. Une enquête disait récemment qu'il y a 15 millions de personnes en France qui prennent des IPP, donc c'est courant.
Oui,
ça coûte cher à la sécu.
Ça coûte cher à la sécu et ça peut-être coûter cher à la santé aussi. Oui.
Quel conseil donnez-vous, Martine Cotina, à quelqu'un qui voudrait aujourd'hui arrêter les IPP et qui peut le faire ?
Alors, moi, ce que je conseille de faire d'abord en premier, c'est sans vouloir chercher les arrêter, déjà commencer à modifier son hygiène de vie. Je crois que c'est ça la clé. Parce que quand les gens modifient leur hygiène de vie, déjà, ils vont améliorer leur reflux. S'ils ont un problème de poids, le poids favorise le reflux. Et donc, la première chose à faire aussi, c'est que l'hygiène alimentaire qu'ils vont mettre en place va leur permettre de retrouver un poids normal, un meilleur sommeil, une meilleure santé, etc. Et après, ça va se faire tout seul. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que comme ils vont aller de mieux en mieux, ils vont même oublier de prendre leurs médicaments parce qu'ils auront plus mal. Et puis quand ils vont aller voir le médecin, le médecin va constater qu'effectivement, ils ont perdu du poids, qu'ils vont mieux, qu'ils sont moins stressés, etc. Il va l'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va se faire tout seul. Donc je crois qu'en premier, la première grande urgence à leur conseiller, c'est d'abord changer changez votre façon de vivre, changez votre façon de manger, mastiquez, mangez autrement, prenez conscience qu'il faut manger autrement. Et c'est ça le message qu'il faut comprendre.
Mmh. D'ailleurs, un des effets qu'on reproche aux IPP, ça serait une prise de poids. Est-ce qu'il y a un lien qui a déjà,
alors,
qui
oui,
a déjà été fait?
C'est par le bien du microbiote, par le biais du microbiote. Bien sûr. Dès que vous perturbez le microbiote, effectivement, il peut favoriser des tas de pathologies, dont la prise de poids, bien sûr.
Est-ce qu'il existe, si vous les avez déjà étudiés ou si vous avez déjà fait l'essai, des solutions naturelles pour remplacer les IPP?
Oui.
Comme par exemple le bicarbonate de soude,
oui.
Ou le jus de coing. Ou...
Alors bien sûr, le bicarbonate, il soulage, mais il soulage dans l'immédiat. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'il va soulager la douleur en urgence. Déjà bien. Après, c'est vrai que quand le reflux est plus ou moins fréquent dans la journée, vous ne pouvez pas prendre du bicar tout au long de la journée. Vous voyez
du,
ce que j'ai.
Du
bicarbonate.
Du bicar.
Ouais, du bicar.
Ah
ouais. Oui,
vous êtes comme ça, vous.
C'est son petit nom.
Ouais.
C'est son petit nom.
Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de recettes miracles qui parfois circulent sur Internet, donc il faut aussi parfois aussi décoder le vrai du faux. Mmh. Parmi les produits qu'on met souvent en avant, il y a l'aloe vera.
Alors, l'aloe vera, ça marche pas mal, hein. C'est un bon protecteur.
En gel, hein, le gel.
Oui, le gel d'aloe vera spécial pour l'estomac, ça marche pas mal. Moi, quand les gens sont assez intéressés par le gel d'aloe vera, je leur conseille de le prendre le soir au coucher et de commencer par des petites doses et d'y aller tout doucement. Hein, de monter doucement et de ne pas dépasser en général 1 à 2 cuillères à soupe le soir au coucher dans un petit peu d'eau. Voilà, un petit peu d'eau. Mais c'est pas mal, ça marche pas mal. Après, vous avez le lithotam qui est intéressant.
Le
lithotam, c'est une algue calcifiée, donc très alcalinisante et qui donne des bons résultats aussi pour alcaliniser entre guillemets le terrain. Ça marche pas mal aussi. Après, vous avez en phyto, vous avez des plantes merveilleuses que sont la réglisse et la mélisse. Intéressantes en association toutes les deux. Elles donnent de bons résultats. Toujours en respectant les contre-indications. Mais quand ils vont chez le pharmacien acheter leurs produits, le pharmacien est capable de leur dire effectivement si leur état de santé permet ou non de prendre ce type de plante. Et on a de super résultats, effectivement.
Mmh. La mélatonine, vous avez déjà entendu?
Oui, ça marche bien aussi, ça donne des bons résultats.
Alors toujours, quel est le rapport?
Parce que
la mélatonine, c'est...
Ah, c'est... Oui. C'est l'hormone pour dormir.
C'est ça, oui. C'est pour ça que...
On sait que les troubles du sommeil peuvent favoriser le reflux. Le reflux peut aussi favoriser les troubles du sommeil. Alors, est-ce que c'est par ce biais-là ou pas? Est-ce que c'est parce que c'est antioxydant? Est-ce que c'est parce que ça a une action aussi sur les sécrétions digestives? Il y a sûrement plusieurs raisons. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi un petit plus, la mélatonine. C'est intéressant. Alors, quand on prend de la mélatonine, c'est bien de l'associer au tryptophane. Vous savez que la mélatonine est fabriquée à partir du tryptophane. Et donc, c'est pas mal de prendre aussi du tryptophane et un petit peu de mélatonine en association. Ça donne aussi de bons résultats.
Alors, qu'est-ce que c'est que le tryptophane?
Et ben, c'est un acide aminé qui est intéressant et qu'on trouve aussi dans l'alimentation. Et donc, il va être transformé en mélatonine au niveau du cerveau. Et donc, d'abord en sérotonine. La sérotonine, notre hormone de calme, de bien-être, de bonheur, etc. Et puis, secondairement, en mélatonine. Donc voilà, c'est cet acide aminé-là qu'on peut aussi donner... Avec ou sans mélatonine, d'ailleurs.
Mmh. Donc, on peut trouver des alternatives naturelles.
Oui.
Encore une fois, il faut poser votre question à ceux qui savent,
bien sûr.
Aux phytothérapeutes.
Voilà. Beaucoup de pharmaciens, maintenant, aussi donnent des conseils en phytothérapie. Donc, ça peut être aussi une aide pour un patient qui n'a pas trouvé de thérapeute près de chez lui. Mais ça peut être des pharmaciens conseils, etc., qui peuvent bien vous orienter sur les plantes à choisir, effectivement. Mais les plantes vont marcher d'autant mieux si vous avez changé votre hygiène alimentaire. Et donc, on peut aller très vite. Un reflux, il peut être amélioré en 2 jours, 3 jours, voire 1 semaine. C'est étonnant. Des fois, 1 mois, bien sûr. Mais ça peut aller très, très vite en quelques jours. Un reflux nocturne, par exemple. Vous savez, Philippe, ces reflux qui arrivent la nuit et qui dérangent les gens. Et il y a des gens qui n'ont des reflux que nocturnes, que la nuit. Et donc, du coup, ça perturbe complètement leur qualité de sommeil, complètement. Ces gens-là, vous changez uniquement le dîner. Le lendemain, ils n'ont plus de reflux.
Mais alors, est-ce que c'est parce que c'est la nuit ou c'est parce qu'ils sont en position allongée, Martin Cotinard?
Les deux. Parce que la nuit, vous avez une sécrétion salivaire qui est nettement moins importante. Et en plus, vous avez la position, bien sûr. Mmh. Et puis pendant que vous dormez, vous avez une sécrétion salivaire moins importante. Hein. C'est sûr, ça joue, parce que la sécrétion salivaire, elle est extrêmement importante. Elle est alcalinisante, cette sécrétion salivaire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, attention, il faut vraiment mastiquer. C'est vraiment un secret pour le reflux. Mastiquer tranquillement les aliments. C'est très important. Parce que du coup, plus vous allez mastiquer, plus vous allez saliver, plus vous allez produire de la salive alcalinisante, et donc plus vous allez tamponner cette acidité qui remonte, voyez.
Et puis il y a ceux qui s'en plaignent le matin, quand ils se réveillent aussi.
Oui, c'est moins fréquent que ceux qui s'en plaignent la nuit. Et ceux qui s'en plaignent dans la journée, à n'importe quelle heure, etc. Méfions-nous d'une cause d'état d'anxiété ou de dépression interne cachée, etc. Enfin voilà, il faut faire attention qu'il n'y ait pas aussi une autre cause à traiter plus profonde.
Bon, on a beaucoup de questions d'auditeurs. Martine Cotina, on les posera dans un instant. Vous êtes notre invité jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Martine Cotina est avec nous, médecin gastro-entérologue et diplômée de nutrition et micronutrition. Une question qui revient souvent, Martine, c'est où consultez-vous ?
Ah bah je suis désolée, je suis à la retraite.
Non !
Eh oui, je suis à la retraite.
Vous avez l'air tellement pas à la retraite.
De mon cabinet, c'est la nutrition qui fait ça. Je suis à la retraite de mon activité libérale. Et par contre, au contraire, je continue sur la formation.
D'accord.
Aux thérapeutes, au public.
Mais etc. Vous recevez plus de gens, parce que c'est une question souvent on m'envoie des mails en me disant est-ce que vous avez le numéro de téléphone,
et
l'adresse
oui.
email de Martine Cotina.
Et oui, ça se voit pas, mais là, j'ai là.
C'est vrai. Bien. En tout cas, vous voyez, vous êtes un exemple que la nutrition,
oui.
Voilà.
Ça conserve un peu.
Et tout le monde dit que vous ressemblez à Sophie Marceau. Hein.
Oh, mais ils sont drôlement gentils.
Vous n'avez pas vu les commentaires ?
Ah non, messieurs. Merci, c'est très gentil. Merci
bien.
À vous.
Là où on fait de la radio, mais vous irez voir les vidéos de Martine Cotina. Elle ressemble à Sophie Marceau.
Oh là là.
Est-ce qu'il y a un lien, puisqu'une question vient d'arriver, y a-t-il un lien entre reflux gastro-œsophagien et apnée du sommeil ?
Ça peut favoriser. Mm-hmm. Ça peut favoriser. C'est pas la seule cause, hein. Mais ça peut favoriser, bien sûr. Mais ce n'est pas la seule cause, hein. Notamment l'excès de poids est à corriger aussi, hein, dans l'apnée du sommeil. Hein. C'est vraiment la première cause à éliminer d'abord. Hein.
Bon, on va parler de quelque chose. J'arrive pas à prononcer le mot. Alors allez-y, Martine.
Oui, vous voulez parler de l'endobrachiosophage.
Endobrachiosophage ou œsophage de Barrett.
Voilà. Alors ça, c'est une complication. C'est une complication que le gastro-entérologue va découvrir lorsqu'il va faire la fibroscopie gastrique, c'est-à-dire lorsqu'il va faire le bilan des lésions, il va les regarder. Il va voir si le reflux a abîmé ou non la muqueuse de l'œsophage. Donc quand il va être au niveau de l'œsophage, il va observer bien la muqueuse. Et s'il voit une petite zone, parce que la muqueuse de l'œsophage, pour expliquer aux auditeurs, la muqueuse est rose pâle, très pâle. Et quand elle va subir des agressions, quand elle va avoir des ulcérations, elle va se cicatriser et elle ne va pas se cicatriser toujours sous le même mode, c'est-à-dire qu'elle ne va pas redonner une belle muqueuse rose pâle. Et donc, elle va pouvoir se cicatriser sous un autre mode, c'est-à-dire avec une muqueuse rouge un peu, donc qui va bien se voir quand on va faire la fibroscopie. Et donc, cette muqueuse rouge va faire des petites languettes, ou alors elle va faire toute une circonférence, ou alors elle va monter en hauteur, etc. Donc, ça va être très variable d'un patient à l'autre. Et cette muqueuse, on va la biopsier, et on va vérifier que c'est bien une muqueuse d'origine intestinale qui se trouve là. Et une muqueuse intestinale qui se trouve dans l'œsophage, elle n'a pas sa place là. Et c'est ça qu'on appelle l'endobrachiosophage. Donc ça veut dire que ça suppose que les gens ont eu une biopsie de cette muqueuse pour qu'on puisse parler d'endobrachie. Parce que endobrachiosophage, ça veut dire muqueuse intestinale placée au niveau de l'œsophage. Voilà.
Et est-ce que certains symptômes, justement, de cette pathologie peuvent ressembler à un reflux gastro-œsophagien ?
Vous parlez de l'endobrachiosophage ?
Oui.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'endobrachiosophage, en fait, ça se manifeste, c'est le reflux, quoi. C'est une observation, voilà, c'est ça. C'est une observation d'une complication du reflux, point. Donc, mais c'est un reflux.
D'accord.
C'est la même chose au niveau des symptômes.
Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un qui nous écoute à consulter justement et aller vérifier l'état de sa muqueuse ?
Très bien, très bonne question, Philippe. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de synchronisme entre l'intensité de la douleur, des symptômes, et l'état de la muqueuse qu'on va observer en fibroscopie. Ça veut dire que tout reflux chronique doit nécessiter une fibroscopie pour vérifier l'état de la muqueuse. On peut très bien avoir un reflux qui dérange énormément et rien à voir du tout parce qu'on a une muqueuse suffisamment costaud qui résiste à cette acidité. Mmh. Et puis l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir de temps en temps mal, mais régulièrement depuis des années, et puis finalement ne pas être si gêné que ça. Mais quand on fait une fibro, peut-être qu'on va trouver l'endobrachiosophage. Donc ça veut dire que tout reflux chronique doit nécessiter une consultation et une endoscopie, au moins au départ, pour vérifier s'il y a des complications ou pas.
Quels sont les aliments qui ont une influence sur le reflux gastro-œsophagien ?
Alors, au niveau des aliments, on va dire attention au café. Attention au café, parce que le café en petite quantité, des fois ça passe, mais des fois même en petite quantité, ça peut augmenter le reflux. Donc en fait, c'est des questions vraiment tout à fait personnelles. Donc ça veut dire qu'il faut que chacun se teste. Mmh. Surtout s'ils sont un petit peu nerveux, qu'ils ont du mal à dormir, alors ça vaut vraiment le coup d'arrêter le café pendant 8 jours et puis de regarder et d'observer. On a très très vite les résultats. Et après, ils peuvent réadapter leur dose. Vous voyez ce que je veux dire ? Mmh. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de les empêcher de boire du café. Le but, c'est de tester leur sensibilité au café. Voilà. Mais ça, c'est vrai que le café, ça peut jouer. Après, tous les aliments gras, les excès de produits laitiers, le gluten, vous avez des tas d'aliments. Et alors après, c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Alors, j'ai édité une fiche anti-reflux, fiche nutritionnelle anti-reflux, que les gens peuvent trouver gratuitement sur mon site « Y va bien ». Y va bien. Information varoise, alimentation, bien-être.
Vous m'enverrez par mail, je la mettrai sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez télécharger votre fiche.
Ils pourront télécharger, l'imprimer, la mettre sur le frigo, etc. Voilà, ça c'est sûr.
Comme ça, chacun fait son test en fonction des aliments
qui
ont une incidence sur leur reflux.
Exactement, voilà. C'était un truc pratique.
Alors, on a pas mal de questions d'auditeurs. Est-ce que le reflux gastro-œsophagien, c'est la même chose que le reflux biliaire ?
Alors, le reflux gastro-œsophagien peut être composé de bile. Voilà. Mais le reflux biliaire, typiquement le reflux biliaire, il peut aussi avoir lieu être dans l'estomac. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous dites reflux biliaire, ça ne veut pas dire qu'il va remonter le long de l'œsophage. Il peut peut-être rester localisé.
Mmh. Alors, une auditrice dit « J'ai du reflux et j'ai écouté tous les conseils, j'écoute régulièrement tous les conseils du docteur Cotina, mais j'ai un côlon irritable et je ne digère pas bien les légumineuses ni les légumes crus. »
Alors. Alors là, effectivement, il va falloir soigner l'intestin irritable. C'est très important pour justement améliorer la santé, le reflux, etc. Et donc, quand on ne supporte pas bien les légumineuses et qu'on ne supporte pas bien les légumes crus, surtout, c'est qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'autres intrus derrière. C'est-à-dire qu'un train peut en cacher un autre. Hein, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, par exemple, derrière une intolérance au gluten, une intolérance aux produits laitiers, un problème lié au café, un problème lié au stress, aux aliments ultra-transformés, etc. Donc, il peut y avoir d'autres aliments qui crée cet intestin irritable et qui fait qu'elle ne supporte plus les légumes crus et les légumineuses. Mais ce n'est pas forcément les légumes crus et les légumineuses qui sont en cause. Mmh. Après, on peut améliorer aussi la digestibilité de toutes ces légumineuses.
Alors, comment vous améliorez la digestibilité ?
Alors, on va les faire tremper une nuit. On va rincer l'eau, jeter l'eau pour éliminer tous les facteurs antinutritionnels. Et le lendemain matin, on les fait cuire. Et on peut encore améliorer cette digestibilité en allant plus loin, c'est-à-dire au lieu de les faire cuire, on va les laisser, donc on les aura filtrés et on va les laisser et les arroser, enfin les rincer matin et soir pendant 2-3 jours dans une passoire, par exemple, pour qu'elles puissent commencer à germer. Et quand elles ont un petit germe qui fait 1 à 2 mm, ça suffit, on va les faire cuire doucement. Et là, effectivement, on va améliorer la digestibilité. Alors après, on peut encore aller plus loin dans la digestibilité, c'est-à-dire qu'on va les broyer pour faire un houmous, pour faire une soupe, et à ce moment-là, ça va devenir digestible.
C'est moins irritant, on va dire.
Effectivement, parce que là, vous broyez tout, vous cassez tout, et donc encore plus facile à digérer.
Le jeûne intermittent a-t-il des effets sur le RGO ?
Alors, jeûne intermittent. Si vous faites le jeûne sur... Alors, le jeûne intermittent, on va prendre le jeûne, par exemple, qui va éliminer le dîner, par exemple.
C'est 8-16, en fait.
Voilà. Alors, si vous éliminez le dîner, bien sûr que ça va améliorer le reflux, parce que le problème du dîner, c'est que les Français mangent très vite ou pas le matin, le midi sur le pouce, et le soir, ils mangent double. Et puis, effectivement, ils vont se coucher après. Et donc, ça, ça favorise le reflux. Donc, effectivement, si vous supprimez le dîner et puis que vous mangez beaucoup mieux de ce fait, parce que vous allez avoir faim le matin, le midi, et alors, à ce moment-là, prenez un goûter, effectivement, vous allez améliorer le reflux, tout à fait, bien sûr. Mais alors, à ce moment-là, prenez un goûter.
D'accord.
Voilà.
Le goûter.
Un goûter.
Et un goûter de quoi ?
Un goûter intéressant. Un goûter, par exemple, avec une banane, une poignée d'amandes, éventuellement, pourquoi pas, deux petits carrés de chocolat, des noix. Enfin, oui, un goûter intéressant.
Comment puis-je améliorer mes RGO ? Alors, je ne sais pas, peut-être que la personne a plusieurs RGO. En étant colopathe fonctionnel.
En commençant à traiter d'abord l'intestin irritable. C'est vraiment le secret, hein. C'est vraiment un secret. D'abord, il faut comprendre que c'est un peu lié, hein, tout ça, hein. C'est-à-dire que toutes ces pathologies digestives, on peut aussi les traiter de la même manière, mais que, bien sûr, il va falloir s'intéresser en priorité d'abord à l'intestin, parce que c'est vraiment la clé, hein. L'intestin, hein, c'est là, c'est la capitale, hein, du microbiote, hein. Donc, il ne faut pas oublier, hein. C'est vraiment un lieu privilégié qu'il va falloir chouchouter, hein.
Donc, on commence par...
L'intestin, d'abord, oui.
D'accord. Ouais. Et là, comment est-ce qu'on nourrit... les bonnes bactéries,
ah bah voilà.
Du microbiote.
Comment vous allez nourrir les bonnes bactéries ? Alors, d'abord, il faut faire ce qu'on a dit tout à l'heure sur la question de l'autre auditrice, c'est-à-dire, attention, vous avez un intestin irritable. Souvent, les gens qui ont un intestin irritable, on leur demande d'augmenter les légumes parce que il faut pour le microbiote, mais ils le supportent pas. Et donc, on va pas commencer par ça. On va surtout aller vérifier les ennemis du microbiote, les ennemis de l'intestin, etc. Et donc là, reprendre effectivement la liste que j'ai mise dans le dernier livre qui s'appelle Maigrir en charmant ses bactéries. Et donc là, effectivement,
ça, c'est pour nourrir votre microbiote, hein.
Voilà,
le chouchouter, le dorloter.
Oui, on en avait parlé. Et donc c'est
une vidéo, vous regardez la vidéo, voilà. Hein, sur la chaîne YouTube.
Et voilà, et donc c'est important effectivement de bien travailler sur son microbiote parce que la dame ne pourra pas augmenter directement la consommation de légumes qui reste pourtant une clé essentielle pour traiter ce microbiote et l'intestin.
Alors on nous demande quelle est la différence entre oméprazole et ésoméprazole.
Oui, ce sont simplement des classes évolutives, c'est-à-dire qu'oméprazole, c'est les premières molécules qui sont apparues sur le marché, et puis après, il y a eu des évolutions avec moins d'effets d'interférences médicamenteuses entre les traitements, etc. Voilà, ce sont des évolutions, mais c'est la même classe thérapeutique.
Une auditrice qui demande si le jus de chou, le jus de chou, c'est pas facile à dire.
Le jus de chou.
Dites-le, Martine.
Le jus de chou.
Ah, vous le dites bien, vous. Est-ce que le jus de chou, ça fonctionne ou
Alors, franchement, hein, honnêtement, j'ai pas testé.
Hein. Je vous dis. Comme ça le tombe.
Ah bah oui, mais désolée madame, mais j'ai pas testé le jus de chou.
Mais ce qui paraît, elle dit ça marche très bien pour le reflux.
Eh ben écoutez, mais il y a pas de raison que les jus n'améliorent pas le reflux. De toute façon, c'est le chou est bourré d'antioxydants, donc de toute façon c'est intéressant. Oui, pourquoi pas.
Est-ce qu'il y a un lien entre les crises d'asthme et le RGO et le reflux gastro-œsophagien ?
Bien sûr.
Est-ce que les gens qui souffrent de reflux sont sujets à faire plus d'asthme que les autres ?
Alors, il y a un lien entre le reflux et l'asthme, mais il y a un lien aussi, inversement, entre l'asthme et le reflux. Donc,
c'est-à-dire qu'en fait...
On ne sait pas trop qui a fait l'un, qui commence et qui fait la suite.
C'est en état actuel des études, on n'est pas certain.
Non, parce que quelquefois, si vous voulez, on constate qu'effectivement, les gens qui sont asthmatiques, ils ont des reflux. Mais des fois, ce n'est pas forcément en traitant le reflux que vous allez toujours améliorer l'asthme. C'est très particulier comme relation, ce n'est pas facile à faire le tri là-dedans.
Très bien. Et vous lisez « Soigner le reflux naturellement » chez Thierry Soucard par Martine Cotina. Je rappelle que vous pouvez réécouter l'émission en podcast, hein, et la faire circuler sur beurrefm.net. Et puis vous verrez la vidéo avec la fiche, c'est promis, sous le lien de la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Martine Cotina d'avoir été avec nous.
Merci Philippe. Merci à tous et à toutes.
Voilà, vous revenez quand vous voulez depuis Toulon.
Ben, merci.
Et passez une très belle journée santé sur beurrefm.
Merci.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.